France Inter. Le 7-10.
Lundi 11 mars, bonjour à tous et bienvenue sur Inter. Anaïs Feuga, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous.
À la une de l'actualité ce matin, la fin de vie à la française.
Le président de la République dévoile ce matin comment il envisage de légiférer sur l'aide à mourir, suicide assisté, exception d'euthanasie, explication dès le début du journal. 4 disparus, 3 morts, lourd bilan des intempéries du week-end, les recherches reprennent dans le Gard. Nous serons aussi à Fukushima, 13 ans après le tsunami. Et aux Oscars, presque carton plein pour Oppenheimer, Anatomie d'une chute repart avec une statuette.
Et les invités d'Inter ce matin à 7h50, Sonia De Villers, bonjour.
Bonjour à tous. L'Église catholique face à l'aide active à mourir. Monseigneur Rouget, évêque de Nanterre, réagira aux annonces du président de la République.
À tout à l'heure, 8h20, le grand entretien de la matinale avec François Sureau de l'Académie française. Il vient nous parler de son livre « S'en aller » à paraître jeudi chez Gallimard. 9h20, Léa Salamé reçoit Gad Elmaleh.
France Inter.
La réflexion a été longue, l'annonce plusieurs fois reportée tant le sujet est délicat et touche à l'intimité de chacun d'entre nous. Et voici ce matin que le président de la République dévoile ce qu'il appelle le modèle français de fin de vie. Longue interview dans La Croix et Libération pour détailler un nouveau projet de loi venu d'en haut. Avec ce texte, on regarde la mort en face, dit Emmanuel Macron. Bonjour Alice Cachaner.
Bonjour.
Alors le chef de l'État ne veut pas employer les termes, mais on parle bien d'une règle générale de suicide assisté avec une exception d'euthanasie, vous nous expliquez.
Oui, dans ce modèle de fin de vie, le patient s'administrerait lui-même le produit létal. C'est uniquement en cas d'incapacité physique, comme une maladie de Charcot, qu'une tierce personne pourrait intervenir, un proche volontaire, un médecin, un infirmier. Au lieu d'un nouveau droit, Emmanuel Macron préfère parler d'une loi de fraternité, d'une possibilité offerte aux patients dont les souffrances ne peuvent plus être soulagées.
Alors on l'a compris, c'est une ligne de crête hein, et qui suscite déjà des réactions.
Oui, du côté des associations en faveur de l'euthanasie, on juge le texte trop restrictif. Le patient doit être majeur avec un discernement plein et entier, avec un pronostic vital engagé à court ou moyen terme. La notion est floue. Autant de verrous qui excluraient certains malades incurables, regrette Jonathan Denis, président de l'association pour le droit à mourir dans la dignité.
Ce que je crains, c'est que demain, vous ayez des demandes qui puissent être exprimées et qu'on soit encore incapable de les accompagner. On a pris beaucoup trop de temps sur ce sujet pour aujourd'hui se contenter d'un strict minimum.
Et côté soignant, le malaise est grand. C'est eux, de manière collégiale, qui devront déterminer si la demande du patient est recevable. Claire Fourcade, présidente de la Société française d'accompagnement en soins palliatifs, se dit très inquiète.
Moi, je vois pas du tout une loi de fraternité dans cette loi. Je vois une loi qui donne aux médecins le pouvoir de décider qui doit vivre et qui peut mourir. C'est pour moi en opposition complète à l'idée que je me fais de mon métier.
Une consternation partagée par plusieurs organisations d'infirmiers, gériatres ou encore médecins généralistes.
Alice Cachaner, merci, spécialiste du service Santé Société de France Inter. Le projet de loi sera présenté en avril en Conseil des ministres, examen à l'Assemblée en mai. Mais le processus parlementaire s'annonce long, pas de loi définitive attendue avant 2025. Je vous rappelle qu'on en reparle à 7h50 avec l'évêque de Nanterre.
Il est 7h04, les recherches reprennent, Anaïs, ce matin, dans le Gard.
Avec le lever du jour, les 300 pompiers, gendarmes, secouristes tentent à nouveau de retrouver les 4 disparus après les fortes pluies du week-end. 3 disparus précisément dans le Gard. Un homme et 2 enfants de 4 et 13 ans emportés par les flots alors qu'ils avaient emprunté un pont submersible. Même imprudence fatale aux 3 autres victimes déjà retrouvées. Elles s'étaient elles aussi engagées sur des ponts submersibles. Un garde champêtre avait directement demandé au conducteur de l'une des voitures de ne pas y aller. Sur place, Boris Loumagne.
Quand on observe la rivière en crue, on comprend vite pourquoi les secours peinent à retrouver les disparus. Une eau boueuse et un courant violent qui compliquent la tâche des plongeurs, notamment le colonel Thierry Carré des pompiers du Gard.
Quand vous avez ces épisodes-là, vous avez énormément de matériaux qui sont chargés. Bon, déjà, on a de l'eau chargée, de la boue, et on a énormément de matériaux, notamment des branches d'arbres, etc., qui fabriquent des amas dans lesquels, potentiellement, les corps pourraient être bloqués. Et donc, c'est la difficulté qui va se présenter dans les jours à venir, c'est d'arriver à investiguer toutes ces zones-là.
Les secours ont ratissé hier une 20aine de kilomètres de berge à la recherche du père et de ses 2 enfants, sans succès. Et il va falloir recommencer aujourd'hui. Les gendarmes du Gard et leur général, Éric Eric Schubert mèneront les opérations.
Les eaux ont baissé, et comme les eaux ont baissé, elles ont découvert de nouveaux espaces. Donc on va refaire toutes les berges, et on va aller plus loin, avec des équipes de plongeurs, avec des équipes de drones, avec les hélicos, pour essayer de trouver le plus rapidement possible les personnes que nous recherchons.
Les gendarmes vont également demander des conseils aux locaux, aux habitants de la région qui connaissent les gorges du Gardon comme leur poche, pour enfin localiser les trois disparus.
Boris Loumagne avec les moyens techniques d'Hélène Langlois. Un quatrième disparu recherché en Ardèche. La vigilance crue est levée dans le Gard, mais 6 départements restent concernés, alors que dans les Pyrénées-Orientales, les lits des rivières sont à sec. Procession religieuse hier à Perpignan pour faire revenir la pluie. Déficit pluviométrique très alarmant depuis 2 ans dans ce département. C'est une parfaite illustration du risque climatique qui va créer des situations catastrophiques en Europe, y compris dans les scénarios optimistes du réchauffement climatique. On parle de chaleur, de sécheresse, d'inondations, de feux de forêt. L'Europe est le continent qui se réchauffe le plus rapidement dans le monde, mais elle n'est pas préparée, estime ce matin un rapport assez inquiétant de l'Agence européenne pour l'environnement, Célia Kiré.
Le sud de l'Europe en particulier risque de souffrir de plus en plus des feux de forêt, du manque d'eau, des canicules. Certaines personnes ne pourront plus travailler à l'extérieur l'été. Selon ce rapport, il faut que les États soient obligés de protéger les agriculteurs et les ouvriers du bâtiment. En bord de mer, certaines régions vont faire face à des inondations, des phénomènes d'érosion. L'eau salée va rentrer dans les terres. Cette agence identifie une 30aine de risques majeurs pour l'Europe et elle estime que plus de la moitié exigent une action urgente, sans attendre une diminution des gaz à effet de serre. En priorité, l'Europe doit commencer par protéger sa population des inondations, des incendies, de l'élévation du niveau de la mer. Les tempêtes ne sont pas assez anticipées, il faut adapter les logements. Concernant l'alimentation, le rapport préconise une transition, même partielle, vers davantage de protéines végétales. Or, à peine 2% des subventions européennes aident les agriculteurs à gérer les risques climatiques. Mais tout cela implique davantage de solidarité entre les États. Depuis les années 80, les phénomènes climatiques extrêmes ont déjà coûté à l'Europe plus de 650 milliards d'euros.
Une précision, Célia Kiré. Pour la première fois, la cérémonie d'hommage aux victimes du terrorisme a lieu hors de Paris. Le Premier ministre est à Arras tout à l'heure à 9h. Il sera au collège lycée Gambetta, là où le professeur de français Dominique Bernard a été assassiné il y a 5 mois. On y revient dans le journal de 8h. Déjà retoqué 2 fois par l'Assemblée nationale, le gouvernement revient à la charge ce soir avec son projet de loi de fusion entre l'ASN, le gendarme du nucléaire, et l'IRSN, l'expert du secteur. Les débats dans l'hémicycle s'annoncent tendus. Débat sur la sûreté nucléaire qui intervient à hasard du calendrier 13 ans après la catastrophe de Fukushima. Le Japon ravagé par un tsunami qui faisait plus de 18 500 morts. Des villes entières évacuées à cause de l'accident nucléaire. Notre correspondante Karine Nishimura s'est rendue à Futuba, la ville où se trouve ce site atomique. Une 60aine de personnes y vivent, 100 fois moins qu'avant, mais l'État fait tout pour faire oublier l'accident.
Ville quasi déserte de Futaba, dans les bâtiments, je traque les traces encore visibles du drame. À l'intérieur de l'hôpital abandonné, surprise.
Ils ont tout débarrassé, alors qu'il y avait encore les brancards.
Fauteuil roulant, chaises, oreillers, serviettes, ici restaient pourtant en vrac les objets témoins du départ précipité du personnel et des patients en mars 2011.
Il n'y a plus rien.
École maternelle, maison, magasin, tout est petit à petit rasé. Car désormais, le mot d'ordre de l'État, c'est reconstruction.
Cette usine est le symbole de la reconstruction de Fukushima.
Masami Asano, patron de l'entreprise de textile Super Zero Mill, installée à Futaba, au milieu de nulle part, sur demande et aux frais du gouvernement.
Quasiment toute la ville a été irradiée. Redonner vie à une agglomération qui n'a pas été habitée pendant 11 ans et demi est un défi inédit à l'échelle mondiale. Mais le Japon est doué pour la reconstruction.
Et l'homme d'espérer des centaines de milliers de visiteurs par an.
L'objectif est 500 000 personnes par an. C'est jouable dès l'année prochaine. Un grand hôtel de loisirs est prévu.
Il sera à moins de 3 km de la centrale, en zone inondable. Ouverture en 2025. Le tout en supposant l'absence de danger lors des travaux de démantèlement. Futaba, Karine Nishimura, France Inter.
Il est 7h09. La poussée de l'extrême droite confirmée au Portugal.
Dans ce pays qui commémore dans un mois les 50 ans de la révolution des œillets et la fin de la dictature de Salazar, le parti populaire populiste Chega passe de 7 à 18% des suffrages et devient la troisième force du Parlement, derrière la droite, en tête d'une courte tête devant les socialistes, en attendant le dépouillement des votes de l'étranger. Nous sommes au Portugal dans le journal de 8 heures. Le début du Ramadan dans la plupart des pays musulmans aujourd'hui, et en particulier dans les territoires palestiniens. La grande mosquée de Paris dit espérer un cessez-le-feu immédiat dans la bande de Gaza. Retour en France avec cette information du journal Les Échos ce matin. Le reste à charge si l'on entame une formation avec son compte personnel de formation serait finalement de 100 euros et non pas 10% comme Bercy l'avait envisagé. Dominique Seux revient dans l'édito Écho. L'économie qui se cherche de nouveaux débouchés avec la filière végétale en progression de 3,5% par an. Et si on n'a plus le droit de parler de saucisses ou de steak végétal, les industriels redoublent d'imagination pour proposer des nouveaux produits comme du beurre sans lait, Agnès Soubiran.
Le beurre a un marché de 2 milliards d'euros en France et où la margarine a encore du mal à séduire. La recette a donc été retravaillée.
Huile de tournesol, de colza, de coco également. On a des graines de tournesol en plus, de l'eau filtrée et puis pour la version sel, du sel.
Olivier Blanjard est le directeur France d'Upfield qui commercialise une nouvelle alternative végétale au beurre et il s'attend à des réticences.
À moyen terme, il y aura forcément des tensions. C'est inévitable. Je pense que si on se projette maintenant dans 10, 20 ou 30 ans, on pourra peut-être sourire de ce genre de réticence qu'il y avait parce que cette tendance-là est une tendance de fond. Au même titre qu'il y a 20 ans, on souriait de parler de voitures électriques et aujourd'hui, de voitures électriques, c'est la norme.
La France, où aujourd'hui encore on consomme 4 fois moins d'alternatives végétales qu'aux Pays-Bas ou en Allemagne. Les marques françaises ont d'ailleurs pris l'habitude de tester leurs produits en Europe avant de les proposer dans l'Hexagone. Mais le marché est porteur, estime Florimond Peureux, fondateur de l'Observatoire national des alimentations végétales.
Les sociétés font plus de marge sur les alternatives végétales. Ce sont des produits qui sont plus faciles à produire, avec d'une matière première qui coûte moins cher. Les magasins ont tendance également à surmarger ces produits. Et c'est également un des freins, le fait que dans les rayons, ce soient régulièrement des produits qui sont assez chers.
Quant aux alternatives végétales dans la restauration, elles sont aujourd'hui encore quasi inexistantes.
Précision Agnès Soubiran. Enfin, c'était il y a quelques heures dans les salons feutrés d'Hollywood.
And the Oscar goes to Anatomy of a Fall.
Ça a été une année folle et tout ce glamour ce soir contraste légèrement avec la manière dont tout ça a commencé. C'était en plein confinement, avec Arthur on était coincés à la maison avec deux enfants et on les collait devant des dessins animés pour avoir la paix. Et il n'y avait vraiment pas de frontière entre écrire ce scénario et changer les couches.
Thank you so much. Thank you. It's such an honor.
Justine Triet récompensée aux Oscars. Anatomie d'une chute reçoit l'Oscar du meilleur scénario. Ça s'arrête là car pour le reste, bonjour Alexis Dumeyer. Vous êtes à Los Angeles et Oppenheimer a raflé la mise.
Oui, et il n'a laissé que des miettes à ses petits camarades, rien que pour Killer of the Flower Moon. Un seul Oscar pour Barbie, un seul pour Winter Break. Pauvre créature, tout de même, s'en sort bien avec 4 statuettes, dont celle de la meilleure actrice pour Emma Stone. Mais cette 96e cérémonie des Oscars a en effet confirmé le triomphe attendu du biopic sur le père de la bombe atomique Robert Oppenheimer. 7 récompenses pour le film de Christopher Nolan qui confirme son statut de roi du blockbuster d'auteur. Et puis, formidable trajectoire que celle d'Anatomie d'une chute, la Palme d'Or en mai dernier avec le discours polémique de Justine Triet soutenant le mouvement contre la réforme des retraites et alertant sur l'avenir de la création culturelle, n'a donc en rien empêché le film d'être un succès mondial puisqu'il a déjà fait plus de 3,5 millions d'entrées à l'étranger en attendant la sortie en Chine à la fin du mois. Cet Oscar du scénario est l'aboutissement d'une incroyable séquence qui marquera à coup sûr l'histoire du cinéma français.
Alexis Demeyer, envoyé spécial de France Inter en direct depuis Hollywood, a noté que le meilleur film international, c'est La Zone d'intérêt de Jonathan Glazer.
Merci Anaïs Feuga. Dans 3 minutes, le zoom aujourd'hui sur le mouvement MeToo Garçon.